Émilien Verdon.
Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol avait autorisé l'armée à ouvrir le feu pour entrer au Parlement lorsqu'il a tenté d'imposer la loi martiale début décembre pour laquelle il a été destitué. Ce sont les conclusions d'un rapport du parquet. Il se base notamment sur un appel téléphonique avec le commandant militaire de Séoul, le pays qui depuis traverse une crise politique avec hier la mise à l'écart du dirigeant ad intérim. La monnaie locale est également à son plus bas niveau depuis 2009 face au dollar. Après un raid israélien, le dernier grand hôpital opérationnel du nord de la bande de Gaza est hors service. Déclaration hier de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé précise que 25 patients en état critique se trouvaient dans l'établissement. Elle fait également état de services hospitaliers incendiés. L'armée de Tsahal avait annoncé le même jour avoir lancé une opération contre des combattants du Hamas près de ce bâtiment de soins. Il est le nouveau secrétaire général du Conseil de l'Europe depuis 3 mois et dit notamment concentrer son action sur la guerre en Ukraine. En une année, Alain Berset s'est rendu 3 fois sur place. Il a déclaré qu'il n'y a aujourd'hui aucune zone sûre dans le pays, après avoir assisté à plusieurs reprises à des alertes aériennes de jour comme de nuit. Ce drame en montagne, en Valais, une avalanche a tué un randonneur hier dans la région d'Arola, au glacier de Chelion. L'homme se déplaçait à bonne distance de la personne qui l'accompagnait lorsque le manteau neigeux a cédé sous ses skis. Il a été emporté jusqu'au fond de la pente. Les secours ont rapidement pu le localiser sous la neige avant de le transporter à l'hôpital de Sion où il a succombé à ses blessures. Il était âgé de 27 ans. Un an après sa victoire à Bormio dans le nord de l'Italie, le skieur français Cyprien Sarrazin y a été victime hier d'une lourde chute à l'entraînement. Elle lui a provoqué un hématome intracrânien nécessitant une opération pour le drainer. Tout s'est bien passé, annonce ce matin la fédération française, précisant qu'il reste sous anesthésie pour le moment. La descente de Bormio aura bien lieu aujourd'hui à 11h30. Les dames disputaient l'un géant dans la station autrichienne de Semmering, à suivre dès à présent sur RTS2 comme la course des hommes tout à l'heure. Roméo perd en quelque sorte Juliette, l'actrice britannique Olivia Hussey, décédée hier à l'âge de 73 ans en Californie, annonce sa famille, qui pleure la disparition d'une personne remarquable dont la chaleur, la sagesse et la pure gentillesse ont touché la vie de tous ceux qui l'ont connue, a-t-elle déclaré. Olivia Hussey avait reçu un Golden Globe pour son rôle d'une Juliette adolescente dans le film Roméo et Juliette de Franco Zeffirelli en 1968. Sous le stratus, sur le plateau, sous le soleil ailleurs, le brouillard ne devrait pas se dissiper. Il faudra monter à 800 mètres d'altitude ou se déplacer dans une autre région pour voir le ciel bleu. Le mercure affichera cet après-midi jusqu'à 7 degrés en Valais, entre 2 et 3 autour du Léman.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Avec la RTS, partageons les plus belles émotions. Fatih Derder reçoit une personnalité romande pour parler de sa vie, la réalisation de ses rêves, la recette de son succès. Le tout en cuisinant sa recette préférée, puis en partageant le repas avec ses proches. L'occasion de manger, boire, rire et échanger. La recette du succès, c'est du 23 décembre au 3 janvier à 14h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
Bonjour. Vous connaissez la Lettonie ?
Oui.
Ah, vous connaissez la Lettonie ?
Ouais, c'est un pays en Europe Baltique, ouais.
Ouais, ça ressemble à quoi ?
C'est un petit pays.
Vous êtes déjà allé à Riga ?
Non.
Ça vous dirait ?
Pourquoi pas ?
Ouais, il y a une émission qui s'appelle Gare à vous. Ok. Tout l'été, le samedi, de 10h à 11h, on est en Estonie, Lettonie, Lituanie.
Ok.
Sur la première.
Ok.
Alors sur le Play RTS.
Ok.
Gare à vous.
Ok, bah j'irai regarder.
On voyage à moindre frais.
Ok.
Ouais. Merci.
Pas de soucis.
Au revoir.
Au revoir, bonne journée.
Gare à vous, en Baltonie. De Tallinn, Estonie, à Vilnius, Lituanie. En passant par Riga, Lettonie. Projet Rail Baltica.
Duja, micro-trotteur, intervieweur. Dimitri, fixeur, traducteur, explorateur. Sur la première, jusqu'à 11h. Gare à vous.
Aujourd'hui à Riga.
Bonjour à vous, gare à vous se trouve aujourd'hui en Lettonie. Nous venons d'arriver à l'aéroport, quelques centaines de mètres à pied en compagnie de Dimitri Vernier. Et là, nous arrivons dans les locaux de Rail Baltica.
Oui, les locaux donc de Rail Baltica, ce grand projet qui va permettre aux pays baltes d'être reliés au reste de l'Europe grâce à un énorme projet ferroviaire, un projet pharaonique qui devrait voir le jour d'ici 2030, si tout va bien. Un projet dévisé à près de 6 milliards d'euros, pris en compte à 85% par la communauté européenne. Et puis, pour parler de ce projet ici même à Riga, nous sommes en présence de Arnold Timofeyevski, qui est le project manager. Et pour nous aider dans cette traduction, nous avons Ruta Olte. Bonjour Ruta.
Bonjour.
Labdien, Arnold.
Labdien.
La première question à vous qui êtes directeur de ce projet ici à Riga. Est-ce que vous êtes en connexion avec les autres capitales, en l'occurrence Tallinn et Vilnius, pour l'avancée des travaux? Vous êtes dans les délais. Est-ce que tout le monde fait bien son travail?
Tātad Baltijas valstu partneriem mēs tā kā regulāri braucam arī pieredzes apmaiņā arī gan uz Tallinu, gan uz Viļņu. Attiecīgi kaimiņu valstīs projekts ir nedaudz citās fāzēs, tāpēc mēs varam mācīties viens no otra kaut kādas kā labāk risināt. Un, jā.
Nous communiquons avec nos partenaires à Vilnius et à Tallinn. Bien sûr que la collaboration se passe en voyage vers l'un ou vers l'autre. En même temps, en connaissant qu'il y a les différences pour avancement dans le projet, ça nous permet d'apprendre de nos collègues.
On a vu les projets de la gare de Tallinn. Quels sont-ils au niveau de la gare de Riga? À quoi ça va ressembler si vous arrivez à nous faire une description?
Ja mēs skatāmies no tāda arhitektoniskas skatu punkta, tad šis stācijas projekts, viņš tika...
Donc, en parlant de point de vue d'architecture, les architectes qui ont élaboré le projet ont été influencés de paysages typiques de la Lettonie, c'est-à-dire de la magnifique forêt de pins. C'est pour ça, à l'entrée, on va utiliser le bois qui vont se rassembler avec la forêt, la forme de construction un peu vallonnée va montrer voilà, les paysages.
Qu'en est-il aujourd'hui du réseau ferroviaire letton?
Tādēļ citas prioritātes, gan sasaistē ar Krieviju, arī ar Baltijas valstīm un Baltkrieviju.
D'abord, le réseau de chemin de fer actuel, il date de l'époque soviétique. Il était construit pour d'abord connecter toute la Russie et les pays voisins, c'est-à-dire la Lituanie et l'Estonie, et bien sûr la connexion vers les ports importants. Donc, ça devait transporter les marchandises, et bien sûr, ça était concerné pour accéder à n'importe quel lieu en Lituanie. Bien sûr, au moment quand on est devenu indépendant, tout il fallait réorganiser, mais on arrivait à ce problème que le réseau ne correspond pas au réseau européen. Et donc, nous sommes devant ce problème que, bien sûr, on n'a plus cette nécessité faire la commerce avec la Russie parce que ça ne transporte plus par les réseaux de chemin de fer. Et nous devons trouver la sortie vers l'Europe. Et donc, voilà, le projet Rail Baltica va résoudre ce problème de connexion.
Donc, pourquoi les pays baltes actuellement ne sont pas connectés au reste de l'Europe? C'est une histoire d'écartement des rails. L'écartement de la période soviétique est de 1520 mm, tandis qu'en Suisse et dans le reste de l'Europe, mais aussi aux États-Unis ou en Australie, on retrouve l'écartement de Stephenson, qui est de 1435 mm. Donc, c'est pour ça que les wagons ne sont pas compatibles avec les rails ou vice-versa. Et grâce à Rail Baltica, on va donc pouvoir connecter les capitales baltes avec, justement, ce qu'il y a plus au sud, c'est-à-dire la Pologne. Et on ira jusqu'à Berlin, par exemple.
Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour l'aéroport d'avoir une gare juste à côté? Est-ce qu'on s'attend vraiment à une utilisation massive de cette gare ici? Comment est-ce qu'on prévoit d'aménager tout ça par rapport à la masse de population estimée qui va emprunter ces nouveaux transports publics?
Šī lidosta stacija ir viena no divām internacionālām stacijām Latvijā. Attiecīgi, internacionālā stacija būs...
D'abord, avec la nouvelle station à côté de l'aéroport, nous aurons deux stations internationales. Pour l'instant, on a la gare ferroviaire au centre de Riga. Comme ça, nous aurons deux. Ce qui va permettre meilleure connexion.
Tātad viņa nu, stacijas nozīme ne tikai kā internacionālajai stacijai, gan ar iespēju kaimiņu valstīm, tā teikt,
cette gare sera connectée avec ça sera non seulement comme les points de relais avec d'autres capitales. En même temps, ce serait le point de relais avec 17 d'autres gares en Lettonie qui sont liées dans le système Rail Baltica. Et comme ça, les habitants de différentes régions de la Lettonie pourront accéder à Riga. Et en même temps, par exemple, la gare de Marupe, c'est tout près de l'aéroport, c'est le lieu où on développe les entrepôts. C'est un lieu de ce point de vue stratégique, comme ça, ça sera avantageux et confortable dans le futur développement.
Comment procède-t-on pour estimer le nombre de voyageurs qui emprunteront cette gare en 2030? Comment est-ce qu'on arrive à faire des projections par rapport à ça?
Uzsākot Rail Baltikas projektu attīstību Latvijā, jau sākot no... 2014. Gada ir jau bijušas dažādas izpētes, gan par labāko...
Comment élabore ce projet depuis 2014? Évidemment, on a fait une recherche pour comprendre à peu près comment ça va marcher. Prévision, combien de voyageurs, par exemple, vont passer par ici. Comme ça, ça nous permet d'avoir une idée de grandeur des bâtiments qu'on va construire.
Pamatoties šīm izpētēm, tika noteikts arī gan platība, gan visas nepieciešamās prasības šai stacijai. Šajā gadījumā, runājot šī stacija, ir...
Cette recherche qu'on a fait nous permet à peu près visualiser le nombre de voyageurs et donc ce qui est important que la gare sera intégrée dans l'aéroport complètement. En même temps, l'aéroport prévoit s'élargir et ajouter de nouveaux bâtiments. On prévoit la construction de deux tunnels pour les piétons et améliorer toute infrastructure autour de la gare et l'aéroport en même temps.
Monsieur, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Que connaissez-vous de la Baltonie?
Ah, alors, on va pas recommencer avec ça. Le résultat des urnes au 7 juillet est pourtant très clair. Alors ce monsieur Baltoni dont on nous parle, je ne sais pas d'où il sort, ne peut pas être Premier ministre. Bien sûr que non. Je ne vois pas pourquoi, encore une fois, on nous propose je ne sais qui, je ne sais d'où il vient, ce monsieur Baltoni, dont on n'a jamais entendu parler. Merci monsieur, bonsoir monsieur.
Mais c'est pas Patrick Baltoni, c'est Patrick Balkany.
Ah, mais c'est pas...
Didi et Dudu en Baltonie.
Sans tomber dans la facilité des jeux de mots, on sait que l'argent, s'il est le nerf de la guerre et parfois le nerf de la gare, les budgets sont-ils respectés? Parce que mon petit doigt m'a dit qu'il y avait peut-être des dépassements budgétaires, que ce n'était pas forcément toujours facile de financer ce genre de projet. Qu'en est-il?
Jā, tas jautājums ir vietā un pareizs.
C'est un bon question. La construction de ce projet est réalisée par plusieurs étapes. Et pour chaque étape, on prévoit s'adresser pour le financement à l'Europe. Comme pour la première étape de la construction, ils ont avancé pour cette demande de financement. Et c'était avant l'ère de COVID. Et en plus, la guerre en Ukraine, on ne pouvait jamais prévoir telle inflation parlant de toutes les dépenses dans le domaine des constructions.
On sait, à l'heure où on parle, qu'il y aura des élections européennes. Est-ce que lorsqu'on est letton et qu'on demande de l'argent à l'Union européenne pour financer des gares, est-ce qu'on est conscient qu'il y a des gens en Europe de l'Ouest qui ne comprennent pas pourquoi l'argent de l'Union européenne devrait financer des gares en Lettonie ? Est-ce que quand on est letton, on se rend compte de ça ?
Tas ir jautājums arī vietā, un arī, ko es varbūt iepriekš neuzsvēru, bet
C'est une très bonne question de nouveau. Bien sûr, on peut répondre que Rail Baltic, premièrement, c'est pour le développement de l'économie locale, pour la connexion des endroits locaux. Mais il ne faut pas oublier que, premièrement, ça sera très, très important du point de vue militaire, parce que pour mobilisation, pour connecter de différents endroits, ça aura une grande signification.
Estonie, Lettonie, Lituanie. Gare à vous, en Baltonie. Jusqu'à 11h.
Bruxelles, musique lettonne. Ça vous étonne, la première, car à vous à Riga.
Et gare à vous, Riga avec Arnold, chef de projet, sur la première. Un Chirai Baltica, mais il est sur la première.
Pour revenir peut-être d'un point de vue architectural et technique, est-ce qu'il y a une différence lorsqu'on construit une gare dans un centre-ville ou dans un aéroport, et quelle est la spécification particulière de cette gare de l'aéroport ici à Riga?
Katrā no vietām ir savi izaicinājumi, un varbūt liktos, kad vieglāk būtu uzbūvēt pie lidostas, jo tomēr tas ir ārpus pilsētas.
Il y a beaucoup de particularités si on regarde la construction d'une gare ou au centre de la ville ou à côté de l'aéroport, parce qu'il y a pas mal de restrictions concernant la construction, par exemple, à côté de l'aéroport. Donc, des points de vue sécurité, par exemple, on ne peut pas avoir le grue très très haut à côté de l'aéroport, en même temps comme on utilise les drones pour fixer la place de la construction, par exemple, on peut les utiliser dans les heures fixes.
Padomju laikos lidosta bija
Donc premièrement, il y a beaucoup de nuances parlant de ce projet. Il faut comprendre que comme l'aéroport date de l'époque soviétique, à l'époque c'était habituel que telle structure était complètement secrète. On a découvert qu'il y a beaucoup de structures souterraines qui n'étaient jamais apparues sur la carte. Comme ça maintenant complique les travaux de construction, comme on a aperçu pas mal de choses sous la terre.
Comme par exemple des cinémas qui projetaient des films américains ou des concerts de rock'n'roll secrets ou déjà des fast-food souterrains pour les cadres du KGB.
Tas mēs vēl neesam atraduši, bet mēs atradām tā kā slepeno degvielas cauruli un vēl arī citas neparedzētas komunikācijas.
Ça, pour l'instant, on n'a pas trouvé, mais par contre, on a trouvé le tuyau de l'essence secret qu'on ne pouvait pas imaginer que ça existe.
Un pipeline?
Un pipeline,
Le contrôleur va me demander mon billet. Bonjour, monsieur. Ah non, c'est bon?
Ah ouais, c'est bon.
Ouais. Vous êtes déjà allé dans les Pays-Baltes en train?
Ah non.
Non?
Non, la Suisse, ça
suffit. Ah ouais, bon, la Suisse, c'est bien. Ah, vous êtes à la retraite dans une année? Soulagé?
Ah ouais.
Si jamais ils cherchent des contrôleurs dans les Pays-Baltes pour le réseau en
2030. Ah non, j'ai donné.
Bonne retraite?
Ouais, c'est pas encore là.
Bon, bah, ça aura vite passé.
Merci, allez, c'est bon.
Allez, bon courage.
Allez, merci.
Gare à vous, projet Rail Baltica.
Dernière question, Dimitri Vernier.
Au niveau de cette gare de l'aéroport de Riga, quelle sera sa spécificité? Qu'est-ce qui vous rend fier dans cette future gare et que vous aimeriez que les voyageurs du monde entier viennent découvrir ici?
Et de Suisse, bien évidemment.
Évidemment.
Eiropas platuma dzelzceļa stacija, kur iet arī uz estakādes Latvijā,
Nous serons très fiers d'avoir une gare qui sera connectée avec même dimension de rails de chemin de fer en Europe. En plus, le chemin de fer sera disposé sur une estacade qu'on n'a jamais eue. Ça sera absolument nouveauté. En plus, on va inventer des éléments de sécurité importants, par exemple le fil qui va défendre contre l'influence électromagnétique.
Arnold Timofeyevs, question plus personnelle, vous êtes relativement jeune, on on imagine tout ça à l'horizon 2030. Est-ce que, en tant que professionnel, vous avez une certaine pression aussi par rapport au résultat final? Est-ce que vous rêvez la nuit de cette gare qui se construit?
Jā, šis projekts ir liels un ļoti nozīmīgs.
C'est un projet très, très important. Et comme on a la possibilité de collaborer avec les collègues étrangers, ça nous permet, et à moi personnellement, d'apprendre, de comparer façon à travailler. Donc, moi, j'espère bien que dès que ça sera terminé, je pourrai et ma famille utiliser ce réseau, cette gare, et je pourrai à mes enfants dire que voilà, moi, j'ai participé dans la collaboration et construction et réalisation de ce projet.
Eh bien, merci beaucoup, Arnold Timofeyev. Donc, vous êtes le project manager ici de cette future gare de l'aéroport de Riga. Merci, Ruta Holt, de nous avoir traduit les propos.
Excellente traduction.
Excellente traduction. Et puis, pour la suite de cette émission, nous allons rencontrer l'ex-présidente de Lettonie, Vaira Veikė-Freiberga. Quand j'ai parlé sur le chemin en venant de l'aéroport où nous avons rencontré pour la première fois Ruta, j'ai dit à Ruta que nous allions rencontrer cette présidente et elle m'a dit « Oh là, c'est une personne extraordinaire, très intelligente. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots, le point de vue qu'a une personne lettonne de cette ex-présidente Vaira Veikė-Freiberga ?»
Attention parce qu'elle va écouter ce que vous allez dire.
Bien sûr. Premièrement, c'est pas que mon opinion, mais c'est une présidente qui était le mieux appréciée de tous les présidents qu'on a eus. Elle était très, très respectée. Même que ça, je peux me permettre de dire que les autres présidents n'ont pas reçu tel soutien du peuple. Plutôt, ils étaient beaucoup critisés. Vaira Veikė-Freiberga, elle est seule qui n'a pas reçu les critiques, ça c'est très très important. Plutôt, toujours les gens vont s'en souvenir d'elle, qu'elle était vraiment une excellente présidente.
Donc est-ce qu'on peut dire qu'elle est regrettée?
Non, je peux pas dire qu'elle est regrettée. Elle était à ce moment-là, peut-être si ça pourrait être aujourd'hui, ça pourrait changer beaucoup de choses, mais elle était à sa place et dans le bon moment. Elle a fait bien son travail.
Nous quittons l'aéroport de Riga, nous partons au centre-ville, gare à vous, Transbaltique. Bonjour monsieur, gare à vous sur la première. Si vous aviez le choix, vous préférez partir en Estonie, en Lettonie ou en Lituanie?
Lituanie, ah non.
C'est con parce que cette semaine on est en Lettonie.
Quel est le rapport?
Que si vous m'aviez dit je préfère partir en Lettonie, ça m'aurait arrangé.
Désolé alors, je ne peux pas toujours abonder dans
non,
le sens.
On l'a refait? Monsieur, bonjour.
Et du genre, mais ça suffit ou bien?
Ouais, ça suffit. Ciao, merci. Et non, ça ne suffit pas. Tout l'été, vous m'aurez sur le dos et entre les oreilles avec une spéciale été, une spéciale estivale. Dans les pays baltes, spécial Estibalt, le projet Rail Baltica, sous toutes ses coutures, Estonie, Lettonie, Lituanie, Tallinn, Riga, Vilnius, ou bien Sugus.
Didi et Dudu en Baltonie.
Gare à vous en Lettonie, gare à vous à Riga. Nous sommes à la chancellerie du palais présidentiel avec une interview exclusive accordée par Madame la Présidente Dimitri. Je te donne le micro.
Oui, effectivement, nous avons l'honneur d'être reçus ici à la chancellerie du château de Riga par la présidente Vaira Veikė-Freiberga. Madame, vous avez donc été à la tête de la Lettonie durant deux mandats, de 1999 à 2007. Vous êtes née et avez passé votre enfance ici, en Lettonie, jusqu'à l'âge de 7 ans. Mais vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que les nazis qui occupaient les pays baltes étaient en train de perdre la guerre, vous avez quitté votre pays avec votre petite sœur de 7 mois, votre mère et votre beau-père. Comment, en étant au Canada depuis plusieurs décennies, vous arrivez à vous faire élire à la présidence d'un pays, puisque pour se faire élire président dans un pays, d'habitude, on gravit les échelons, on se fait connaître, on a le soutien d'un parti, on a de la propagande, on est obligé de voir les candidats dans les médias. Et vous, vous êtes à peut-être 8 ou 10 000 kilomètres de votre pays, mais vous arrivez à vous faire élire. Je trouve ça absolument extraordinaire. Comment vous pouvez expliquer le processus ?
J'avoue que la chose est assez curieuse et peut-être unique dans son genre. La chose, c'est que, voyez-vous, ces communautés lettonnes existaient partout, dans tous les pays qui avaient accepté les réfugiés. Donc, par exemple, au Venezuela, il y avait des Lettons, une communauté pas très grande, au Brésil aussi, en Australie, et aux États-Unis, évidemment, au Canada. Ces gens-là, justement, avaient des organisations, des groupes de l'Association des Lettons du Canada, par exemple. Les joueurs de quilles de Lettons du Canada, etc. Il y avait une communauté lettonne qui avait une vie canadienne ou américaine ou brésilienne ou australienne dans sa, comment dire, pour sa profession, sa carrière professionnelle, sa vie publique en quelque sorte, mais les samedis et les dimanches, ils faisaient une école du dimanche pour que leurs enfants apprennent aussi le letton, qu'ils apprennent un peu quelque chose sur la littérature et sur l'histoire lettonne. Et le 18 novembre, donc, la fête de l'indépendance de la Lettonie, qui était absolument, il fallait absolument pas la mentionner dans la Lettonie occupée donc par l'Union soviétique, il y avait toujours une cérémonie particulière avec un concert et avec un invité, un orateur qui faisait un discours patriotique. J'ai en quelque sorte, au fil des années, j'ai été invité à différents congrès de jeunesse lettonne en Europe, etc., etc. On me disait d'être un bon orateur, et au bout de certains nombres d'années, je faisais des voyages aux États-Unis, au Brésil, au Venezuela, en Australie. Je faisais des tours en Europe, et ils disaient « Mais vous êtes tellement bon orateur que vous feriez un très bon président, c'est dommage qu'on n'ait pas un pays. » Alors quand on a eu le pays, évidemment, j'étais quand même encore professeur à l'Université de Montréal, mais une chose très extraordinaire est arrivée. L'université m'a fait une offre qui m'a tout à fait surprise. Je venais d'avoir 60 ans et normalement au Canada, on travaille jusqu'à 65. On me dit, le fonds de pension des professeurs de l'Université de Montréal a un surplus actuariel et on lui demande de, en quelque sorte, demander à certains professeurs de prendre une retraite anticipée. Et on vous fait une offre spéciale où vous pouvez investir cet argent de façon à ce que votre pension de retraite ne soit pas trop restreinte par rapport à ce que vous auriez eu à l'âge de 65 ans. Alors j'ai beaucoup réfléchi parce que j'étais très attaché à mon poste de professeur, à mes étudiants, à mes cours, etc. Mais j'ai accepté. À peine quelques mois après cette retraite anticipée, en juin, je reçois un appel du Premier ministre de la Lettonie qui m'invite à rentrer au pays et créer l'Institut Letton. Et là, la création de cet institut a été... J'avais en quelque sorte mes amis poètes et des gens littéraires que je connaissais depuis les années 80 déjà, avait en quelque sorte convaincu le gouvernement de créer ce poste de l'Institut Letton pour me donner une excuse et un travail à faire pour revenir en Lettonie. Ils avaient déjà en tête qu'eux aussi, ils trouvaient que j'étais assez bon orateur, que j'avais de bonnes idées, parce que j'avais fait des publications sur l'identité lettonne, sur ce que ça veut dire de garder son identité tout en étant un citoyen d'accueil. Ce genre de réflexion que j'avais faite au fil des années les avait impressionnés. Et donc, c'est en quelque sorte le travail en sourdine de quelques poètes. Mais les poètes étaient très estimés à l'époque. Il n'y avait pas de politique, voyez-vous. Donc, les poètes exprimaient les idées que la censure n'attrapait pas toujours. Ça a été très curieux parce que c'est toute une histoire. C'est vous dire que déjà une année auparavant, mes amis et mes admirateurs, en quelque sorte, avaient décidé qu'on devait me ramener du Canada en Lettonie. Je suis venue toute seule. Mon fils était déjà ici. Il était venu comme journaliste et il est resté. Il n'est jamais retourné au Canada où il est né, à Montréal. Ma fille aussi, maintenant, habite la Lettonie. Donc, toute la famille, nous avons été rapatriés. Mais c'est-à-dire que c'est très curieux d'avoir été élu par des folkloristes, parce que je faisais des études aussi sur le folklore letton. J'étais connue donc parmi la communauté lettonne internationale et aussi avec la perestroïka. Ils ont pu me connaître déjà un peu, un certain nombre de personnes, un cercle de personnes limitées qui s'intéressaient aux traditions lettonnes, aux chansons populaires lettonnes que j'étudiais. Et ils trouvaient que j'avais de bonnes idées aussi sur ce que ça veut dire d'être letton, sur l'identité surtout.
Et la psychologie, ça aide en politique ou c'est une idée reçue ?
Vous savez, la psychologie expérimentale, j'avais des étudiants qui travaillaient avec les rats qui faisaient des labyrinthes. J'ai été clinicienne au tout début de ma carrière, après mon mariage. Et il faut dire que je faisais du diagnostic dans un hôpital, le seul psychiatrique de Toronto de l'époque. Et j'ai pu passer à travers le manuel diagnostique de toutes les neuroses possibles et imaginables. Ça m'a pas fait de tort.
On les retrouve dans le monde politique ?
Eh oui, partout.
On peut les identifier facilement.
Mais pas tous, pas seulement en politique, partout.
Mana balta mamuliņa, tavs bērniņis, vairs nebūšu tavs bērniņis, vairs nebūšu. Tikko acis kopā gāja, tūlīt vēļi aicināja, tūlīt vēļi aicināja.
Bonjour monsieur, pardonnez-moi, vous êtes au téléphone avec l'ex-présidente de la Lettonie.
Non, excusez-moi.
Non, c'est pas elle. Alors on la retrouve au palais présidentiel.
Gare à vous, aujourd'hui à Riga.
Gare à vous est une émission qui parle aussi de train, qui parle de gare. On va évoquer bien évidemment Rail Baltica, puisque nous sommes venus dans les Pays-Baltes pour parler de ce grand projet. Mais d'abord, j'aimerais connaître votre rapport au train. J'ai eu l'occasion de discuter avec des Estoniens, des Estoniennes, aussi un petit peu avec une Lettonne, notre guide, notre traductrice plutôt, Ruta. Et à chaque fois, on a l'impression que l'inconscient balte révèle des choses assez négatives, des images négatives du train, avec ses déportations, avec ses trains soviétiques. Il y a une forme parfois de rejet de l'idée du train qui peut se manifester à travers l'inconscient, peut-être.
Hélas, c'est possible parce que les gens ont en tête ces images, mais c'était des wagons à bétail. Oui. Ce n'est pas des trains ordinaires, normaux. C'était des wagons à bétail où les gens ont été entassés sans air et sans rien. Mais moi, personnellement, voyez-vous, j'avais de bons souvenirs de visites que l'on faisait de la gare de Riga à la gare de Liepāja, qui est sur la côte ouest de la Lettonie, et ensuite à un petit train qui menait à une autre petite ville un peu plus loin. Et enfin, la dernière partie du trajet, mon oncle venait à cheval,
une calèche.
Une calèche, à nous chercher à la gare. Et quand je suis rentrée en Lettonie pour la première fois en 1969, de façon exceptionnelle, parce qu'à l'époque, les émigrés ne venaient pas en grand nombre, et quand j'ai rencontré pour la première fois une cousine, elle est venue me chercher à l'hôtel qui est pas loin de la gare, où les étrangers étaient tous logés. Je lui ai dit, tu sais, moi, je sais le chemin à partir de la gare jusqu'à notre adresse sur l'Arch Place Hill. Et elle ne me croyait pas, parce que j'avais 6 ans quand nous avons quitté Riga. Et je lui ai dit, viens avec moi, on commence à la gare. Et on est allé à pied, et effectivement, j'avais le parcours en tête. J'ai retrouvé l'endroit où mes parents avaient eu leur appartement.
L'ancienne présidente de la République lettonne, Vaira Veike Freibergas. Ça se passe dans Garavou sur la première, le projet Rail Baltica. Garavou en Lettonie.
Tad spēlētē zēdņozok, tu kalado, kalado, atnes mani pīzoguse, kalado, kalado, vi pilni sazudītis, kalado, kalado.
Une dernière question, Madame la Présidente, car évidemment, nous avons tous eu une longue journée. J'aimerais connaître votre sentiment quant à ce projet, Rail Baltica. Vous y croyez ?
Moi, j'y crois beaucoup, parce qu'on lit les mémoires d'artistes lettons des années 20 et 30, et il y a toujours un voyage en France, en Belgique, en Suisse, qu'ils ont fait en train. Et ça fait partie intégrale de leur... appartenance à l'Europe. Ils prenaient cela comme acquis, que de la Lettonie, on prend un train et puis on arrive à Paris, à Berlin. Et pour moi, ces liens-là, autres que ceux, évidemment, aériens qui sont les plus fréquents, beaucoup de Lettons louent un autobus et partent en voyage, par exemple, pour visiter l'Espagne. Ils dorment dans leur bus ou ils prennent un hôtel en chemin. C'est-à-dire le désir de visiter l'Europe est très vivace, et non seulement, hélas, nous perdons des gens par émigration, mais je pense le désir d'avoir un lien physique commode, pas trop cher, est très réel, et je pense qu'il soit, d'ailleurs, ma visite d'État en Allemagne, je l'ai fait aussi au Mecklembourg, où j'ai été comme enfant, comme réfugié, et les parties est de l'Allemagne, elles aussi trouvent qu'un lien avec ces autres pays tout au long du littoral de la mer Baltique, ce serait un beau lien pour permettre des échanges beaucoup plus commodes et accessibles.
Alors rendez-vous en 2030 pour l'inauguration.
Je crains que peut-être je n'y serai pas, j'y serai en esprit pour le moins.
Merci beaucoup pour cet entretien.
Je vous en prie, ça a été un plaisir.
Voilà Dimitri, nous allons poursuivre notre visite de Riga, tout en remerciant bien évidemment aussi toute l'équipe qui nous a accueillis ici dans ce palais présidentiel à la Chancellerie. Un vrai bonheur de pouvoir interviewer Madame la Présidente. Là, nous allons interviewer d'autres gens demain.
Alors demain, nous allons rester ici dans cette capitale lettonne, Riga. Nous commencerons une visite par la gare centrale. Et puis, juste à côté, il y a le plus grand marché d'Europe. Le marché de Riga, qui se trouve dans des anciens bâtiments où on a construit les zeppelins. Mais alors, ces bâtiments n'ont pas été construits ici, c'est-à-dire qu'ils ont été construits dans une autre partie du pays, puis amenés ici au centre de Riga. On va parler des produits gastronomiques, bien évidemment. Et puis, nous finirons par quelque chose de très important ici, de très représenté au niveau architectural. Il s'agit de l'Art Nouveau, puisqu'il y a tout un quartier ici... à Riga, avec de l'Art Nouveau, des maisons sculptées de manière absolument fabuleuse.
Tout ça, ça sera la semaine prochaine dans Gare à vous, entre 10h et 11h sur la première. Et puis le marché, évidemment, c'est un lieu où beaucoup de politiciens se sont forgés. Voilà pour le petit clin d'œil. À vous les studios, à vous Lausanne.
Jusqu'à 11h sur la première, Gare à vous.
Quand vous allez au marché, n'oubliez pas de demander de goûter. Les produits, ils vont vous donner un morceau à goûter. Oui.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la gastronomie lettonne ?
Les choses fumées, comme le poisson fumé.
On en goûtera pour vous alors.
Oui. Merci. Et si vous voyez une fenêtre ovale, eh bien, ce sera un immeuble art déco qui fait face en quelque sorte à distance au monument à la liberté. Et c'est l'appartement que l'État me donne comme partie de ma pension.
On viendra jouer de la guitare dessous.
Il me le donne en location, en quelque sorte.
Ah oui, c'est bien de préciser.
Ah oui, oui, parce qu'il ne m'appartient pas. Il appartient à l'État.
Aïe,
visa nāca pieļautiņi, pieļautiņi. Aide viņiem i celiņiem, i celiņiem.
Il s'appelle Ilgi, il est letton, il vient de vous interpréter Aitumsanaktezalazle, qui signifie « Oh, nuit noire, herbe verte ». Oui, l'herbe est toujours plus verte sur la première. Gare à vous en Baltonie, gare à vous à Riga, Lettonie. Trois capitales, à savoir Tallinn, Riga et Vilnius, trois pays donc, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, et puis surtout des surprises lors de ce périple fantastique, puisque nous avons croisé un groupe suisse qui se produisait dans un énorme festival en Lettonie. Il s'agit des Valaisans de Samael. Tout de suite sur la première. Thomas Bétrizet, alias Drop, guitariste de Samael. Bonjour Thomas.
Bonjour déjà.
Comment ça va?
Mais ça va bien et vous?
Quel plaisir de vous croiser ici, à Riga. Vous étiez dans un festival, mais avant d'en parler de ce festival letton de métal, peut-être nous rappeler pour toutes celles et ceux qui ne connaîtraient pas Samael, qui est ce groupe?
Alors, Samael, c'est un groupe de métal à tendance industrielle qui s'est formé en 1987.
Plusieurs albums au compteur, à peu près 9 d'après ce que j'ai cru comprendre.
Ouais, une dizaine d'albums, on va dire ça comme ouais. Ça.
Vous avez rejoint le groupe il y a quelques années, à la base un groupe formé par deux frères de Sion.
Oui, par Vorf, Exi, Vorfalak, Exi Traguptor, à l'époque les deux frangins qui ont donc formé le groupe à la fin des années 80.
Ouais, un groupe qui est connu internationalement, la preuve vous êtes produit dans ce festival en Lettonie. Pourtant en Suisse, dans le grand public, c'est pas toujours évident quand on parle de Samael, de savoir de qui on cause.
Non, alors nul n'est prophète dans son pays, à part peut-être Alain Morisot.
Là voilà, vous passez sur la première, je me souviens d'une première partie de Rammstein, notamment Samael en 2005 si je ne m'abuse. Vous étiez passé notamment sous le micro de Gérard Souter, le regretté animateur de la première et son fameux Paradiso. Revenons à Samael, Samael en Lettonie, un festival assez hallucinant. J'ai pu voir quelques images, j'ai vu que la thématique était assez axée sur le Moyen-Âge avec des gens en cotte de maille, en costumes médiévaux. C'était assez étonnant, c'était ça l'esprit du festival?
Oh oui, c'était un festival plutôt axé pagan, folk, donc tout ce qui a trait un peu genre viking, tanneur de peau, donc il y avait des renards secs morts qui trônaient au bout de fil. Non, c'était vraiment joli, en plus c'était vraiment un cadre assez idyllique avec un petit étang, une rivière, c'était assez grand, il n'y avait pas beaucoup de monde, enfin il y avait largement assez de monde, mais ils n'ont vraiment pas entassé les gens, donc c'était vraiment une belle expérience.
Ouais. Vous étiez tête d'affiche, un groupe suisse en tête d'affiche d'un festival métal international en Lettonie, c'est assez récurrent pour Samael?
Ça dépend de la taille du festival, mais c'est vrai que ce genre de festival-là, on aurait tendance à les faire en tête d'affiche, surtout lorsque c'est des pays dans lesquels on n'est pas allé jouer depuis relativement longtemps, ce qui est le cas de la Lettonie.
Et en général, vous produisez dans des grosses scènes, il y a quoi, plusieurs milliers de personnes?
Alors oui, si c'est un festival, il y a largement plusieurs milliers de personnes. Après, il y a des pays comme la Pologne, le Mexique, le Chili, où là, c'est vrai que le groupe marche très bien, donc nous, tout seuls, on pourrait amener plusieurs milliers de personnes, ouais.
Le Japon aussi?
Le Japon, ouais, on a été là au mois de mars, on a fait Tokyo, Osaka, c'était vraiment excellent. Mmh. C'était la deuxième fois qu'on allait.
Ouais, quand on se balade comme ça à travers les continents, est-ce qu'il y a des lieux qu'on aime retrouver? Est-ce qu'il y a un public un peu plus frénétique sur certaines dates? Ou alors c'est chaque fois des expériences différentes?
Moi, j'ai pas envie de mettre des préférences, mais c'est vrai que j'ai remarqué que le public d'Amérique latine sont vraiment hyper motivés. Ils sont là, ils crient presque plus fort que nous.
Ce qui est difficile.
Ce qui est difficile.
Ouais. Situer la musique de Samael, si on devait expliquer la musique de Samael, une question extrêmement simple, Thomas Bétrisé, si on devait situer cette musique, comment est-ce qu'on la décrirait à des personnes qui ne connaîtraient pas du tout ce style?
Alors je dirais que c'est du métal, donc du rock violent, métal sombre, avec beaucoup d'influences électroniques, il y a de la boîte à rythme, il y a du clavier, c'est très symphonique, donc ça reste agressif de point de vue des guitares, du chant, mais dans le fond, on est assez proche de la musique classique au niveau des arrangements, des violons, des chœurs, ce genre de choses.
Vous êtes tous des formations musicales qui vous font devenir des professionnels assez tôt.
Par rapport au solfège et tout, c'est pas mon cas, moi j'ai vraiment appris sur le tas, mais c'est vrai que les années d'expérience de studio, d'expérience avec l'instrument et expérience de la scène, forcément ça compte.
Vous avez toujours rêvé d'aller au festival Zobens und Lemmes à Sekoum, ce festival de métal letton qui pèse des tonnes. Eh bien, vous pourrez peut-être y aller, comme ce fut le cas pour les Valaisans de Samael qui ont participé cette année à ce festival. On les a retrouvés dans les rues de Riga.
Estonie, Lettonie, Lituanie.
L'été sera balte ou ne sera pas.
Gare à vous, projet Rail Baltica.
Thomas Bétrisé de Samael sur la première d'Angar à vous. Vous étiez, on l'a dit, dans un festival en Lettonie. Les pays de l'Est, ce sont des pays dans lesquels Samael a beaucoup de succès. Vous avez le temps de faire les touristes de temps en temps?
On essaye, si on a un festival, par exemple, comme là, on est arrivé à Riga un jour avant, ce qui nous a permis de se promener dans cette très très jolie ville. On a bu quelques verres, on a fait du tir à l'arc, on a été un rooftop en haut d'une église. Enfin, on a fait pas mal de trucs. C'est vraiment une très très jolie ville. Ouais. J'étais assez surpris. En fait, je m'attendais pas à ça.
Souvent, lorsqu'on parle des pays de l'Est, en l'occurrence des pays baltes, puisque gare à vous, se balade durant tout le mois d'été, tout le mois de juillet, les mois d'août, du côté de ces pays baltes, on est assez étonné, on a beaucoup de préjugés, ou alors il y a toute une inconnue qui génère notre inconscient, on ne sait pas à quoi s'attendre, et on remarque que ces pays, enfin pour notre part, sont très très différents, trois pays avec une culture différente, avec des architectures différentes, des langues différentes. Comment est-ce que vous avez ressenti Riga lorsque vous êtes arrivé à l'aéroport, puis dans la ville? Qu'est-ce qui vous a marqué?
Moi, j'aime bien ce côté un peu mur de briques, chemin en briques, enfin tout ce côté. Je trouve ça assez chaleureux tout en étant très froid, en fait. Ce serait comme Écosse, je trouve c'est beau, mais alors qu'il pleut, il fait moche, c'est froid, mais c'est chaleureux en tout en restant froid. Et je pense que c'est le côté aussi de tous ces pays de l'Est, mais que ce soit aussi Prague ou ce genre de ville. C'est des villes où il y a tout et en même temps, c'est beau. Ils ont une assez grande histoire, une assez vieille histoire. C'est quand même des pays assez vieux. C'est quand même un avantage qu'on a... en Europe par rapport aux USA, c'est que on fait 200 km, on change de culture, on change de pays, et ça c'est quand même assez intéressant de pouvoir tourner en Europe pour ça.
Quelque chose qui m'a marqué lorsque je me baladais dans les rues de Riga, c'est l'enthousiasme des gens. Il y a une sorte d'énergie positive qui émane de cette ville, dans les bars, dans les bistrots, avec des bistrots assez originaux, des décorations assez insolites, des boutiques aussi assez barrées, et puis toujours aussi ce do it yourself, pour reprendre un anglicisme, cette idée qu'on se démerde un peu avec les moyens du bord pour créer des choses créatives, originales. On sent un souffle dans ces pays.
On sent qu'ils n'ont pas toujours été au top niveau financier, etc. Et puis c'est justement peut-être pour ça, ce fait que les gens vivent assez bien, ils sont quand même assez joyeux. C'est vrai qu'avec pas grand-chose, ils nous font quelque chose de bien. Par exemple, enfin, je sais pas si en Suisse, on voit beaucoup de tirs à l'arc au coin des rues. Mais là, il y avait un gars qui proposait de tirer à l'arc et on trouvait ça assez original, assez chouette. D'ailleurs, on lui a donné quelques euros.
Le public letton vous a accueilli comment ? Ils connaissaient Samaël, il y avait des gens juste devant la scène qui étaient écrasés contre les barrières et qui chantaient les chansons, qui connaissaient les morceaux.
Oui, alors il y avait ça, et c'était pas la frénésie comme ça aurait pu être par exemple en Pologne ou encore pour en reparler encore une fois en Amérique latine. Mais ils étaient là, il y avait des gens, pas mal de gens qui étaient habitués au groupe, pas mal de gens qui ont vu le groupe aussi la dernière fois que Samaël a joué là-bas, ça doit faire 13 ans, moi j'étais pas encore dans le groupe, ça fait 10 ans cette année. C'était pas la frénésie, mais c'était largement assez bien pour qu'on en garde un excellent souvenir.
Qu'est-ce qui vous attend avec Samaël maintenant? D'autres continents, d'autres dates, d'autres festivals, peut-être un nouvel album en gestation?
Oui, alors on est en train de terminer les enregistrements, on va démarrer le mix d'ici la rentrée, je pense, donc l'album, j'ai pas encore de date, mais en fin 2024, début 2025, il devrait commencer à avoir, je pense pas l'album, mais au moins un ou deux singles qui pointent le bout de leur nez.
Samaël, est-ce que parfois vous êtes allé jouer en train, vous avez emprunté le train?
Alors, à l'époque, ils ont été en train, en Pologne, je crois, ils ont été en train, ça se trouve. Moi, selon mes souvenirs, donc aller en train, non, mais par contre, Tokyo, Osaka, ça c'est des trucs qu'on fait en train. À l'époque, on avait aussi fait Saint-Pétersbourg, Moscou, donc voilà, c'est des choses qu'on fait en train. Moi, avec Samaël, je me suis pas rendu à un concert lointain en train. On a plutôt tendance à prendre l'avion, et si c'est pas trop loin, on prend un van.
Là, géopolitiquement parlant, c'est assez mal barré, mais il y a beaucoup de groupes qui rêvent de ce romantisme du transsibérien, s'arrêter dans tous les pays qui sont traversés par le transsibérien. Ça serait le genre d'aventure pour un groupe de rock qui serait assez incroyable, non?
Ah, ce serait absolument incroyable, c'est vrai. Malheureusement, bon, maintenant, le transsibérien, voilà, c'est temps. J'imagine qu'on peut moins faire des tournées dans le transsibérien. Mais ouais, ça, je pense que ce serait vraiment quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'il y a des groupes qui l'ont fait. Hein.
Le pays le plus insolite, le plus exotique dans lequel vous avez joué?
Le truc le plus exotique qu'on ait fait, c'est forcément la croisière métal 70,000 tons of metal. Une fois, on est allé en Jamaïque, une fois, on est allé à Turk and Caicos. Et Samaël l'a déjà fait une fois avant moi, avant que je sois là. Ils ont été aux Bahamas. Et là, on le fait au mois de janvier 2025. Donc là, on retourne en Jamaïque.
Donc avion, train, bus, bateau, paquebot même. Quelques mots pour terminer sur cette croisière de métal, parce que ça c'est un truc assez hallucinant.
Le concept des 70,000 tons of metal, donc c'est quand même les premiers à avoir fait ça. Pas mal d'organisations ont repris le concept, donc maintenant il y a pas mal de croisières métal. Celle-là, ça reste l'original. Je ne sais pas si c'est la mieux, car c'est la seule, à part la Rock the Lake Cruise, qu'on a fait avec MXD l'année passée. Mais sinon, c'est la seule croisière métal que j'ai fait. Mais c'est vrai que c'est une expérience à faire. Personnellement, j'y irai pas si je ne joue pas. Mais en tout cas, c'est toujours quelque chose qu'on se réjouit de faire. Et là, typiquement, on arrive à Miami 2-3 jours avant pour se mettre à l'heure et profiter un peu de la Floride.
Mais ça se passe comment? Les gens sont sur le même bateau avec les groupes durant plusieurs jours?
Alors les groupes sont sur le même bateau. Ils ont les cabines au même endroit. Donc vraiment, tout le monde se croise. C'est un peu comme un grand backstage. Donc il y a quand même des petits espaces privés pour les groupes juste avant de monter sur scène. Mais en gros, non, c'est vraiment tout le monde. Là, avec les groupes, tu croises les gars des groupes, tu croises les fans, ils te parlent, tu leur parles, et puis c'est vraiment super.
Merci beaucoup, Thomas Bétrizet, alias Drop de Samaël, qu'on a croisé ici à Riga. Moi, je vais prendre un autre bateau, le bateau qui va me faire le tour de la ville. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci à toi, Duja, à bientôt.
Des roses de cristal, Chris était sa mollis. Mon amour sans rival, des délices. Il prend ma taille ronde et ronronne sur elle. Pour jouer, je lui gronde des menaces cruelles. L'opéra de Vermeil s'échappant du laser de soleil et d'ombre passagère, mais à que la vie est belle, soudain elle éblouit comme un battement d'ailes d'oiseau de paradis, mais à que la vie est belle. Quelquefois pour un rien, la divine immortelle, dans le mal et le bien, on m'a
brillant comme une abeille, brillant comme un éclair qui dure et émerveille. La joie nous souffle au cœur, on chérit l'univers comme un enfant de cœur, son Dieu des terres de chair.
Vous venez d'éprouver l'incommensurable plaisir d'écouter Zao de Sagazan sur la première avec « Ah, que la vie est belle !» Oui, la vie est belle lorsqu'on écoute Gare à vous en Lettonie, à Riga.
Il est 11h, le kiosque à musique à destination de midi et demi est en place.